Fictus figitus zombre capon.
Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait de taille à lutter.
Un peu de zade.
Une
grève.
Pilotes sont en crève, de faim, de froid, de tout, autour faire la grève.
Du gaz de schiste.
Quotation de gisement de gaz de schiste.
Du logement.
Toi,
du féminisme. Bon bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer ben, de sport en guerre. On aura pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent
et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, bonsoir, comme vous, vous le savez, on est le 13 décembre à Pi à Cap Day. Il est aussi 19h03 et c'est le début des Canu Info du vendredi. Pour commencer, on va vous parler de la mobilisation de Jamais Sans Toi et des écoles occupées.
Ensuite, on vous parlera du directeur du ballet, de l'Opéra de Lyon qui est condamné pour discrimination.
Vous aurez ainsi le droit à une petite brève de Noël.
Et puis, évidemment, c'est la grève partout, donc on vous fera un petit suivi du mouvement social.
Surtout, on a la chance aujourd'hui d'être avec des personnes qui ont participé à l'AG féministe d'hier. Du coup, on fera un petit point sur le féminisme, les féministes dans la mobilisation.
Ensuite, on vous parlera de nos outils de lutte.
On vous dira que le préfet a interdit aux manifestants et manifestantes du 14 et 15 décembre de se rendre dans les zones commerciales de Lyon.
Et puis qui dit préfet dit police, on vous parlera du comité vérité et justice pour Selom et Matisse, 2 ans après les faits.
On ira après pour vous parler de la reconnaissance faciale en manif qui se met en place.
On vous racontera un peu ce que c'est la grenade Gli F4 utilisée par la police pour nous réprimer en manif.
Et puis police toujours, répression encore, on vous parlera de la répression du mouvement social en cours parce qu'ils y vont comme des petits fous.
Et pour finir bien sûr par le traditionnel agenda jusqu'à la grande révolution.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Terre. J'ai 2 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire à Cannes.
Canu Info du vendredi.
Pierre, eh ben aujourd'hui, à Cannes, ça veut dire entre autres, l'anticapitalisme arrive bientôt.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette nuit.
Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulay.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-Rouvelin.
Petit reportage sur la grève qu'on a dit à les agents jouer sur la base du rassemblement pour le droit de l'Opéra de Lyon.
Canu Info du vendredi.
Rubrique locale.
En ce début décembre, 12 établissements scolaires de la métropole lyonnaise ont déjà servi de refuge à 50 de 169 enfants sans toit qui ont été recensés par les différents collectifs Jamais sans toit, qui sont du coup composés par des parents d'élèves et des enseignants et enseignantes dans plein d'écoles de Lyon. Faute de place au sein du dispositif de renfort hivernal et faute surtout d'une volonté politique de trouver une solution pérenne à ces situations récurrentes, il y a du coup pas mal d'écoles qui ont été occupées. Il y a eu aussi des goûters solidaires, il y a plein d'écoles qui se mobilisent et notamment cette dernière semaine il y a eu pas mal de choses. Du coup on fait un petit état de lieu des écoles qui se mobilisent actuellement. Du coup, on commence par le collège Gilbert Dru à Lyon 7e parce que vous avez encore le temps d'y aller là tout de suite. Il y avait un rassemblement à partir de 18h30 en soutien aux élèves sans toit et à leurs familles. Sachant que ça fait plus de 10 jours déjà que ce collège est occupé chaque nuit par des enseignants et enseignantes, personnels et parents d'élèves pour mettre à l'abri les élèves et leurs familles qui sont à la rue. Ensuite, à l'école Léon Jouot, à Lyon 3e, il y a eu une occupation hier, jeudi 12 décembre, à partir de 18h30, pour mettre à l'abri une famille composée par une mère seule avec ses deux enfants de 4 et 11 ans. Le collectif Jouot existe depuis décembre 2017 et exige un hébergement de toute urgence pour ses deux enfants et leur maman. Ensuite, on passe à l'école du Tonkin, au collectif Tonkin sans toit, où depuis le mercredi 4 décembre, des membres de l'équipe éducative, des parents d'élèves et des habitants et habitantes du quartier du Tonkin ont mis à l'abri au sein du collège trois élèves avec leur famille. Ensuite, et du coup hier, vous êtes peut-être allé au rassemblement de soutien devant l'école, devant le collège du Tonkin à 18h. Ensuite, à Vaumla, la solidarité s'organise inter-école. Il y a du coup plusieurs collectifs Jamais sans toit qui s'organisent à plusieurs écoles et il y a eu deux nouvelles écoles occupées. Il y a au total 40 enfants à la rue scolarisés sur Vaumla, au moins c'est les estimations de ces collectifs. Et donc il y a plusieurs écoles qui, depuis le 2 décembre, sont occupées, les écoles Gagarine, Wallon et Grand Clément. Et de nouvelles écoles se préparent à occuper dès demain. Et plusieurs goûters solidaires sont prévus. Il y a plusieurs rendez-vous. Cet après-midi, il y avait un rendez-vous à l'école Anatole France. Mardi 17 à 16h30, vous pouvez aller à l'école Mistral pour un goûter solidaire. Et le 20 décembre, à l'école King, il y aura aussi un goûter solidaire à 16h30. Ensuite, toujours ce soir, c'était à 17h15, l'école Audrey Hepburn avait organisé un rassemblement die-in sur la place Valmy. École occupée depuis le 18 novembre pour mettre trois mamans et leurs six enfants à l'abri. Et rendez-vous aussi lundi 16 décembre à 18h30 pour un goûter solidaire à l'école Ampère de Caluire. Toutes ces occupations, vous pouvez les suivre sur le Twitter ou Facebook de Jamais sans toit. Et on vous tiendra aussi au courant de ce qui suit.
On va maintenant du côté de l'Opéra de Lyon, où le directeur du ballet a été condamné pour discrimination. Alors c'est Yorgos Loukos, qui est le directeur du ballet de l'Opéra de Lyon, qui a été condamné ce mercredi avant-hier en appel à 1 500 € d'amende avec sursis pour discrimination et 5 000 € de dommages et intérêts à verser à une ancienne danseuse pour avoir demandé le non-renouvellement du contrat de cette dernière à son retour de congé maternité. Le syndicat des artistes professionnels demande la démission de Yorgos Loukos, le directeur donc du ballet de l'Opéra de Lyon, après cette condamnation en appel. Les faits remontent en fait à 2014, quand Carline Marion, danseuse de retour de grossesse, devait enchaîner un 6e CDD, synonyme de requalification de ce contrat en CDI, quand elle reçoit une lettre de non-renouvellement de son contrat. Yorgos Loukos, le directeur du ballet, motive ce choix par, selon lui, la faiblesse physique et stylistique et le style trop classique de la danseuse, pourtant passée par le ballet de Béjart. L'artiste décide alors d'enregistrer sa conversation quelques jours plus tard avec Yorgos Loukos, qui déclare, je cite, « Je pense que si entre 29 et 34 ans, tu as fait pas mal, mais pas beaucoup, ce n'est pas entre 30 et 40 que tu vas faire plus, en plus avec un enfant. » Lors d'un autre enregistrement, le directeur du ballet lui dit « Tu peux rester à Lyon pour faire ta gym et t'occuper de ton truc », en parlant de son enfant. Le directeur du ballet de Lyon avait été condamné en 2017, en première instance, à 6 mois de prison avec sursis, 5 000 € d'amende et 20 000 € de dommages et intérêts pour discrimination au travail et harcèlement. Un jugement qualifié à l'époque de ridicule par l'intéressé. En appel, les faits de harcèlement n'ont pas été retenus. Les syndicats des artistes professionnels ont demandé donc le licenciement de Yorgos Loukos s'il ne démissionne pas lui-même. Le jugement en effet est complètement abusé. Même si elle a gagné le procès, la danseuse a certainement payé bien plus de 5000 euros pour tout ça. On n'imagine aussi pas trop ce que c'est de perdre une carrière à cause d'un enfant. Visiblement, il a encore le choix de rester, puisqu'il a été prié de démissionner. Bref, demain, c'est la première du Roi Carotte, spectacle de Noël à l'Opéra. Un tractage à 18h30 est prévu par les agents et les agentes de la ville de Lyon. Ce tractage a pour but de communiquer sur la réforme des retraites qui nous touche toutes, mais aussi sur cette situation. Il a aussi pour but donc, de communiquer sur le procès du directeur du ballet, afin qu'il ne tombe pas aux oubliettes, par solidarité avec Carline, pour ce que ce monsieur ne soit plus en poste. Les directeurs discriminent, la ville cautionne.
Et on n'est pas du tout dans le local, mais on a une petite brève pour vous. Il s'agit d'un jeune homme de 34 ans, sans domicile fixe, qui dimanche ce soir, le 8 décembre, s'est laissé enfermer dans un supermarché à Saint-Martin-d'Hères. Il a passé la nuit, il a mangé, il a bu, c'est un peu, moi c'était mon rêve d'enfant de me renfermer dans un supermarché à la fermeture pour manger tout ce que je voulais, du coup j'étais très admirative. Et du coup voilà, sauf que cette personne ne l'a pas fait par gourmandise, mais aussi parce qu'il n'avait pas d'endroit pour dormir la nuit. Il a été trouvé par les salariés le lendemain, lundi 9 décembre à 4h30 du matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a directement été placé en garde à vue parce que il avait mangé, il avait bu gratuitement et il avait dérobé certains objets, entre autres un couteau à fromage. il est passé en comparution immédiate le lendemain. Et il répondait notamment à des chefs de vol, port d'armes et usage de stupéfiants. Les vols en question, du coup, c'est des vols du chocolat, des crayons et d'un couteau à fromage. Et qu'est-ce qu'il proposait le prévenu? Il sollicitait une condamnation à une peine de travaux d'intérêt généraux parce qu'il avait reconnu le vol de certains objets et il expliquait avoir dormi là-bas parce qu'effectivement, il voulait trouver un endroit pour se réfugier car il n'avait pas de plan pour la nuit. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé les magistrats? En fait, cette personne a pris 6 mois de prison ferme. Voilà, pour avoir dormi une nuit dans un supermarché et avoir volé des crayons.
Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!
Les mouvements sociaux.
Mais notre règne arrivera quand votre règne finira.
Rien ni personne ne pourra étouffer une révolte.
Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes.
Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott.
Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les doigts.
Et oui, on est dans ces temps où le temps s'accélère et depuis vendredi dernier, notre dernier Canu Info, le mouvement s'est amplement amplifié. On vous parle évidemment du mouvement social. Vous l'avez sûrement suivi dans les Canu Info des jours précédents. Mais si vous étiez trop occupé entre blocage et manif, on vous refait un mini petit teasing des jours passés avant discuter de ce qui se passera plus tard. Depuis fin novembre, donc, les étudiants et les étudiantes se mobilisent contre la précarité. Et depuis le 5 décembre, c'est tout le pays qui rejette un système inégalitaire et un gouvernement qui ne fait qu'amplifier les injustices au profit d'une minorité. À Lyon, depuis vendredi dernier, on a eu la chance de pouvoir manifester 2 fois samedi, l'après-midi pour amplifier le mouvement social, le soir dans les rues du centre-ville pour un carnaval contre la fête des Lumières. Mardi, c'est près de 20 000 personnes qu'on a retrouvées en manif. Et après les annonces d'Edouard Philippe, le mercredi, jeudi, c'était plus de 10 000 personnes qui étaient encore dans la rue avant la prochaine grosse journée de mobilisation le 17 décembre. En vrai, on ne sait plus où donner de la tête. Big up aussi aux cheminots qui chaque matin tiennent des piquets de grève. Vous pouvez les retrouver à Perrache dès 7h du matin et aussi à Gare Pardieu. Big up aux lycéennes et aux lycéens notamment à Douaneau, à Vaux-en-Velin, à Marcel-Samba, à Vénissieux, au lycée Ampersax, qui se retrouvent chaque matin devant leur lycée, malgré la répression policière qui est extrêmement lourde, pour bloquer et surtout informer, pouvoir se rendre en manifestation, finalement se politiser. Big up aux étudiants, aux étudiantes de l'Université Lyon 2 ou de l'ENS, big up aux profs qui arrivent à faire grève, big up finalement à tous ces salariés du privé et du public qu'on retrouve dans les rues chaque jour sur les piquets de grève. Le gouvernement entend passer sa réforme en force et accuse maintenant le mouvement de kidnapper Noël. On ne peut pas tout vous raconter. On peut vous conseiller par exemple d'aller sur rebellion.info pour suivre jour par jour l'évolution de ce mouvement, les comptes rendus de manifestation, les comptes rendus de répression aussi. Et pour vous faire un petit aperçu de la semaine, on vous passe un reportage dans la manifestation du mardi 10 décembre.
Bah, en fait, c'est des pétards qui servent à la sécurité. Du coup, tu dois en disposer 3 sur les voies de chemin de fer à une certaine distance, et quand le TGV passe dessus, bah, il sait qu'il doit déclencher le freinage d'urgence.
Moi, je m'appelle Grégoire, je suis prof d'histoire géo dans un lycée à Lyon. Et puis, bah, voilà, je suis ici parce que bon, pour la question de retraite, mais de manière générale, pour la casse des services publics depuis maintenant, je sais pas combien de décennies. Et que là, on atteint un point où on en a ras-le-bol. Voilà. Concrètement, là, selon les calculs actuels, on est entre moins 400, moins 800, voire moins 1000 euros par mois au niveau des retraites. Donc ça fait un truc absolument énorme et monstrueux pour tous les collègues.
On est avenue Jean Jaurès à Lyon et on se mobilise contre la réforme des retraites. On était mobilisés la semaine dernière. Jeudi, on a fait grève en masse dans mon lycée. Vendredi aussi, puisque donc on a reconduit massivement. On est allé faire le tour des lycées aussi autour de chez nous et des collèges. Puis bah, on est en grève aujourd'hui parce qu'on est toujours très très mécontent du fait que bah, on va perdre énormément à la retraite. On repousse aussi l'âge de celle-ci.
Moi je suis enseignante au collège. Le boulot est dur. On ne voit pas trop comment on ira déjà jusqu'au bout actuellement. Donc ce sera encore pire avec ce projet.
Monsieur Blanquer, je ne sais pas, il n'a pas la même calculatrice que nous. Elle est un peu faussée quoi. Parce qu'ils nous disent que le point d'indice sera toujours indexé sur les salaires. Mais nous par exemple le point d'indice des fonds de la fonction publique comme on est payé, il y a 10 ans de gel, donc si on fait pareil avec les points de retraite, on perdra aussi par rapport à l'inflation.
Jeudi dernier, ça a été vraiment très très suivi. On était 80% de grévistes.
Les gens, ils se mobilisent pas pour rien, quoi. Cette année, je pense que c'est la plus grosse mobilisation depuis 95. On veut casser la fonction publique encore plus, la fragiliser, comme pour les hôpitaux, comme pour les postiers, avant France Télécom, voilà, c'est le même principe. Et ben, pour faire plier, je pense, c'est comme en 95, hein, c'est 3 semaines de grève et puis... C'est un rapport de force, il faut essayer de gagner.
Je suis pompier à Lyon, c'est une belle manifestation, il y a du monde, il y a surtout des gens qui viennent de tout horizon, on a des professeurs, des écoles comme mon collègue qui était juste à côté de moi, il y a des avocats, voilà, vous voyez, il y a les pompiers, il y a les gens des transports, non, c'est une très belle manifestation. J'ai vu un collègue à moi qui a pris un coup de LBD dans l'épaule.
Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé pour toi ?
Alors du coup, on était à Saxe là, avec les banderoles et avec les pompiers, on bougeait plus, les flics provoquaient. Les pompiers sont venus devant nous en fait et on commençait à lever les mains en mode on est pacifiste. Nous on bougeait pas derrière avec les banderoles renforcées. Il y a un flic qui est arrivé devant un des pompiers qui lui a dit dégage, dégage. Le pompier voulait pas bouger. Un autre flic a poussé le pompier et celui qui était derrière avec son LBD en gros il s'est décalé. Il m'a tiré en plein dans l'épaule avec son LBD. Il était à 1m50 de moi quoi. Le tir du LBD, ça m'a mis une reculée et du coup ça m'a fait tomber par terre. Et le temps de me relever, je me suis pris plusieurs coups de matraque sur la tête. Voilà. Après j'ai réussi à m'extraire un peu du bordel là. Et les médics m'ont pris en charge et voilà, m'ont soigné, m'ont mis de la glace et je verrai ce soir.
Invisible, disponible, libre et irréductible.
Canu, info.
Invisible, disponible, libre.
Actu féministe.
Nous sommes fiers et féministes et solidaires et en colère.
Canu Info du vendredi. Et oui, la question des retraites est une question féministe. Au point où hier avait lieu une assemblée générale à la pause du travail à 17h45, une assemblée générale féministe.
Alors pourquoi ? Le système actuel était déjà très défavorable aux femmes retraitées, puisqu'elles touchent en moyenne 40% de moins que les hommes, essentiellement à cause des inégalités de salaire et de carrière. La réforme telle que prévue aujourd'hui par le gouvernement aura des conséquences dramatiques pour tout le monde, et encore plus pour les femmes. C'est pour cela que la bataille contre cette réforme doit être prise en charge spécifiquement par le mouvement féministe. Le Premier ministre a pourtant affirmé mercredi que les femmes sont les grandes gagnantes du système universel. D'après lui, des points supplémentaires sont accordés dès le premier enfant aux mères et non à partir du troisième comme aujourd'hui. Et toujours selon le Premier ministre, nous construisons donc un système de retraite plus juste pour les femmes. Ah bon, j'ai pourtant l'impression que beaucoup de meufs ne pensent pas ça, et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous deux personnes de super féministes, en tout cas liées au planning familial, qui étaient aussi présentes à l'AG féministe d'hier. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu d'où est-ce qu'elle vient, cette AG ? Bonjour d'abord.
Bonjour. Bonsoir. Alors l'AG féministe, c'est une idée qui a émané de plusieurs copines du planning, qui se sont dit, en fait, dans des mouvements sociaux d'autres pays, donc par exemple l'Argentine, il y a des piqueteras qui se sont organisées avec des AG féministes en plus des AG piqueteros habituels. Et donc ça, c'est une source d'inspiration qui vient du fait qu'on a rencontré en fait des féministes de la FOB, qui est une organisation argentine récemment. Et par ailleurs, on s'est aussi rendu compte que cette réforme des retraites, elle a touché spécifiquement les femmes en tant que femmes et qu'elle contribuait à fragiliser encore plus leur situation économique. Donc, ses copines se sont dit « Hey, en fait, on va faire une AG féministe. On va inviter un maximum de personnes à venir d'horizons différents, d'horizons professionnels différents, d'horizons syndicaux différents. » Et de collectifs et d'organisations différentes. Et puis, on va commencer à essayer de s'organiser d'un point de vue féministe contre cette réforme.
Et alors, comment ça s'est passé concrètement hier soir ?
Alors, ça s'est passé très simplement. On a décidé ensemble, d'abord en ouverture d'AG, que l'Assemblée serait mixte, mais que la parole et les votes seraient réservés aux non-mecs cis. Donc,
est-ce que vous voulez nous rappeler ce que ça veut dire cis pour les auditeurs qui n'auraient toujours pas compris ? On vous invite à écouter nos canuts infos des semaines précédentes.
Un mec cis, c'est un mec né homme, assigné homme à la naissance et qui se reconnaît dans cette identité-là. Donc voilà. Et puis on est très vite passé à définir un ordre du jour ensemble et puis à faire d'abord un tour des secteurs professionnels des participantes, enfin dont les participantes étaient les représentantes. On a fait un petit point d'information sur l'impact de la réforme avec une discussion là-dessus, sur en quoi ça touchait plus les femmes et en quoi c'était une très 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 mauvaise nouvelle pour les femmes, encore plus que pour l'ensemble des Français. Et puis on a passé un bon moment à réfléchir à comment agir ensemble, au-delà des cortèges féministes et au-delà de la mobilisation, de la grève et des manifs, se demander quelles actions on pouvait faire ensemble.
Alors, de ce que j'ai compris, c'est que vous étiez environ 80 à cette assemblée hier, ce qui est énorme en fait, et de coup des personnes de plusieurs secteurs professionnels. Et alors, en quoi cette réforme, elle est spécifiquement dommageable pour les femmes ?
Alors, en fait, il n'y avait pas tous les corps de métier représentés, parce que c'est la première. Donc, on espère notamment rallier à nous des femmes gilets jaunes et des secteurs qui n'étaient pas représentés hier. Pour information, dans les personnes qui ont pris la parole, il y avait des étudiantes, des personnes qui travaillent dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans l'éducation, dans le monde associatif, dans la santé, dans le service à la personne, dans la culture. Donc, on avait déjà quand même un panel assez intéressant pour une première AG féministe de secteurs représentés. Et en quoi cette réforme, elle touche spécifiquement les femmes ? Alors, il y a plusieurs points assez techniques, donc on va peut-être alterner pour les présenter. Le point qui nous paraît le plus évident, en fait, c'est que déjà, c'est une réforme qui nous promet une retraite par points, au lieu d'avoir un système de solidarité comme le système actuel. Alors attention, parce que c'est un peu point technique. Donc en fait, aujourd'hui, dans le système actuel, on met dans le pot commun les cotisations c'est-à-dire ce qu'on appelle des droits contributifs, en fait, c'est-à-dire que ce que chaque salarié cotise au titre d'un salaire différé, en fait, qui alimente les caisses de retraite. Et donc, dans ce pont commun, il y a ces contributions. Et puis, il y a aussi des compléments qui sont ajoutés par la puissance publique pour compléter certaines situations. Donc, notamment pour compléter certaines carrières un peu incomplètes ou pour compléter quand il y a vraiment des, je sais pas, des invalidités, des choses comme ça, qui relèvent du coup de la solidarité. Et en fait, avec ce que promet la réforme, ces droits sont dissociés. Donc au lieu d'avoir dans un même pot commun ces deux types de droits, on aurait une dissociation. Et forcément, dissociation, ça veut dire que la partie solidarité, vu qu'on est dans des gouvernements de moins en moins prompts à défendre la solidarité, ça veut dire une baisse de ces points solidarité. Et qui bénéficie plus de ces points solidarité ? Eh bien, structurellement, les femmes. Donc ça, c'est le premier point.
À cause des carrières hachées, des congés maternité,
des temps partiels imposés.
Des temps partiels imposés, et voilà, de la précarité liée au salariat dit féminin de manière générale.
Exactement.
Alors ça, c'est un premier point. En gros, on part, comme tu le rappelais, on part de salaires moyens des femmes qui sont inférieurs à ceux des hommes et que ça se reflète sur les pensions actuellement. Ce qui va s'aggraver, ça tient à plusieurs choses. Alors il y a une chose qui est très très claire, c'est que les interruptions de carrière liées à la naissance des enfants, pour les femmes qui ont eu des enfants, ça va être pris en compte différemment et donc ça va nuire aux femmes. Pour l'instant, lorsqu'on fait des enfants, ça compte comme des trimestres de cotisation. Pour chaque enfant, il y en a 4 pour l'accouchement, enfin la maternité et l'accouchement, et 4 pour l'éducation, qui peuvent être un des deux parents, chacun des deux parents peut en bénéficier, c'est au choix, mais en général, c'est les femmes. Et puis une majoration de 10% à partir de 3 enfants. Ce qui va changer, c'est qu'on supprime les trimestres. En gros, si on s'arrête 6 mois, ça retarde le départ en retraite. Et puis on remplace ça par une majoration de 5% de la pension par enfant. La communication du gouvernement, c'est de dire dès le premier enfant, on gagne, sauf qu'en fait, on perd. Ils annoncent aussi qu'il y aura 2% de plus pour 3 enfants et plus. Mais en fait, ces pourcents, ils sont attribués à un des conjoints au choix. Et comme la moyenne les salaires moyens des hommes sont nettement supérieurs à ceux des femmes, la plupart du temps, le choix serait fait de prendre 5% sur le salaire des hommes. Et donc, ça nuira à l'autonomie financière des femmes de façon mécanique.
Ce qui change aussi, c'est les pensions de réversion. Aujourd'hui, les pensions de réversion, c'est ce qui permet à des femmes, principalement, parce que je crois que c'est 95% des bénéficiaires des pensions de réversion sont des femmes, de toucher une partie de la retraite de leur conjoint décédé. Et aujourd'hui, c'est un droit qui est ouvert à partir de 55 ans. Et grâce à cette magnifique réforme, ce droit ne serait plus ouvert qu'à 62 ou 64 ans, puisque c'est l'âge pivot qui ferait...
au moment du départ en retraite, en fait.
Voilà. C'est ça. Qui ouvrirait, en fait, le droit à ces pensions de réversion. Donc, d'après les calculs qui ont été faits, ça toucherait à l'heure actuelle environ 70 000 femmes.
Voilà. Et en plus, pour les femmes qui ont divorcé, jusque-là, elle touchait une partie de la pension de réversion au prorata des années de mariage, et là, il n'y aura plus rien. Donc, encore une façon de décourager les femmes de partir quand elles ont envie de le faire.
Et quand on sait que la seule organisation qui s'est réjouie des annonces d'Edouard Philippe de mercredi, c'est le MEDEF, et qu'on connaît l'attachement profond du MEDEF à l'égalité salariale et à la cause féministe, on se dit « Waouh !»
Mais alors du coup, j'ai l'impression, et merci qu'on a bien compris pourquoi cette réforme, elle était particulièrement dommageable pour les femmes. Comment, de manière féministe, on peut donc se mobiliser ?
Alors, il y a juste un dernier petit point qu'on n'a pas dit sur pourquoi cette réforme, elle est encore plus terrible que ça pour les femmes. C'est qu'en fait, cette réforme, elle est très pénalisante pour les fonctionnaires et pour les gens qui travaillent dans le service public. Parce qu'en fait, actuellement, les pensions, elles sont calculées pour les fonctionnaires sur les 6 derniers mois. Parce que c'est des agents de la fonction publique, et les agents de la fonction publique touchent très peu de primes. Du coup, on considère que pour compenser ça, il vaut mieux compter sur vraiment les derniers mois où les salaires sont les plus importants. Cette réforme, c'est l'idée de calculer la pension sur l'ensemble de la carrière. Et du coup, quand on connaît la propension des femmes à ne pas demander de primes et à ne pas en obtenir, en raison du sexisme et de la socialisation genrée, quand on sait en plus que 62% des fonctionnaires sont des femmes, et ben on se rend bien compte que mécaniquement, toutes ces baisses de pension vont toucher les femmes, pas que de la fonction publique, mais aussi et surtout de la fonction publique.
Et donc je reviens à ma question qui a d'autant plus de sens. Comment se mobiliser et comment se mobiliser de manière féministe, qui est quand même une mobilisation spécifique?
Eh bien, il y a plein de façons, notamment depuis le 5 décembre, il y a un cortège féministe dans les manifestations qui est une façon aussi de discuter, de chanter ensemble et de partager un peu l'impression qu'on a. En faisant le tour interprofessionnel hier soir, on a pas mal discuté des difficultés à se mobiliser pour les femmes, parce que les femmes plus précaires et plus en charge des enfants, notamment... Et puis dans des professions, beaucoup de soins où forcément la pression, elle est maximale. Il y avait une jeune femme qui est auxiliaire de vie ou aide-soignante qui disait que pour elle, bah, c'était quasiment impossible de faire grève parce qu'en fait, elle a en responsabilité des personnes âgées chez qui elle va. Et si elle y va pas, bah, en fait, ils sont dans la merde, quoi. Et donc pour elle, faire grève, c'est très compliqué. Pour toutes les femmes qui gagnent très peu d'argent, c'est compliqué. Toutes celles qui ont charge de famille, c'est compliqué. Toutes celles qui sont dans des contrats de type CDD et qui donc ont un droit de grève qui est ultra fictif, c'est compliqué aussi. Donc on a pas mal partagé tout ça. Il y a des buts de solutions qui peuvent être envisagés, notamment des caisses de grève pour essayer de pallier aux difficultés. La grève n'est pas la seule façon de se mobiliser, on peut aussi venir à manifester entre midi et deux, on peut aussi juste partager des choses avec ses collègues et puis commencer à bouger comme ça. Il y a des actions un peu plus radicales qui sont imaginées, mais voilà. On a commencé à penser aussi, et ce sera le cas pour la prochaine AG de mardi soir, penser garderie pour celles qui ont leurs enfants le soir et qui pourraient avoir envie de venir en AG, mais qui ne peuvent pas les faire garder parce que c'est encore des coûts supplémentaires.
On a aussi pensé à, parce que cette réforme elle est assez technique finalement, donc on a aussi pensé à faire des tracts de différents formats en fait, du plus simple au plus détaillé sur pourquoi cette réforme elle touche tout le monde de façon négative et encore plus les femmes. Et on a aussi envisagé, alors c'est pas encore mis en place mais ça va se faire dans les prochains jours, prochaines semaines, des traductions aussi, et de se rapprocher des organisations qui existent déjà pour avoir du coup des contacts avec des femmes d'un maximum de secteurs.
Ouais, on peut mentionner le fait que le collectif Nos Retraites a fait un thread Twitter aujourd'hui sur en quoi les retraites pour les femmes, c'était vraiment il y avait une raison de se mobiliser, c'était un enjeu féministe important, et c'est pas si fréquent qu'il y ait cet enjeu souligné, et ça lie vraiment la question à tout un continuum de violence qui est pas, on parle pas seulement de précarité et de violence économique, on lie ça à comment on est plus vulnérable quand on n'est pas capable de subvenir à ses besoins, quand on est beaucoup plus dépendant. Et en aggravant ça, on va aggraver les violences faites aux femmes, globalement.
Donc on peut rappeler qu'un thread Twitter, c'est un fil Twitter, et que du coup, pour le trouver, même si on n'a pas Twitter, on peut taper « Nos retraites oui. Twitter » dans un moteur de recherche.
Collectif
Nos Retraites. Ouais. Et là, vous pouvez tomber sur ce fil Twitter qui vous permet du coup d'avoir des informations. On aurait envie d'en parler des heures, et évidemment, le temps nous est compté, comme toujours. J'ai quand même envie de dire que je trouve que c'est assez réjouissant de voir dans ces manifs-là, mais aussi depuis au moins 2016, des pink blocs, des cortèges féministes dans les manifestations et des revendications spécifiquement féministes dans des mouvements sociaux plus larges. On a vu aussi le collectif des colleuses, des collages contre les féminicides, et donc des collages se multiplier en lien avec la réforme des retraites. Il y a eu des collages avant le 5 décembre, il y a eu des collages pendant les manifestations suivantes. C'est quelque chose qui est réjouissant et qui visibilise aussi une précarité qui est particulière. Peut-être, pour finir cet entretien, où est-ce qu'on vous retrouve le 17? Est-ce qu'il y a une suite et comment on vous contacte?
Alors, on n'a pas encore créé d'adresse mail, je crois, pour nous contacter, mais par contre, le 17, on va faire un cortège. On espère qu'il sera tout aussi punchy que les précédents et plus massif encore. Donc, on sera à la Maison du Judo, donc à l'arrêt de métro Sans Souci, donc vers la manufacture des tabacs pour le départ de la manif. On aura une grosse banderole violette.
On ne peut pas nous rater. Et puis le soir, donc à 18h30, à la Bourse du Travail, dans la salle des conférences, qui est la salle Moissonnier, au troisième étage, à 18h30, avec une garderie pour les petits.
Voilà, donc ça sera AG Féministe, deuxième édition.
Et bien du coup, on rappelle les rendez-vous mardi prochain à partir de 11h 30 à la Maison du Judo, à côté du métro Sans Souci, pour retrouver le cortège féministe et en faire partie, pouvoir aussi discuter avec les copines qui s'organisent. Et le soir, à partir de 18h, à la Bourse du Travail, c'est au métro Place Guichard, salle des conférences, salle Moissonnier. Vous trouverez, il y aura plein de meufs hyper déter qui seront là pour partager leur lutte avec vous. Et ben merci beaucoup d'être venu témoigner aussi de ce petit bout de lutte. On essaiera de vous présenter évidemment semaine par semaine des petits bouts de ce mouvement social. Pour conclure, j'ai envie de dire aussi que je trouve c'est chouette parce que dans plein de villes, on s'organise de manière féministe et notamment à Nantes, les garderies populaires ont déjà été mises en place. Donc pour dire aussi que c'est possible et que par exemple, il y a des copines féministes à Nantes qui s'organisent pour que pendant les manifestations, mais aussi pendant des piquets de grève ou des blocages par exemple, des personnes en charge d'enfants puissent s'y joindre avec une prise en charge collective des enfants.
Bonjour, je m'appelle Lily et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la plus nulle des radios.
Eh bien, ACAB, donc là, ce soir, ça veut dire beaucoup de choses. Et là, entre autres, ça veut dire « Aller casser les banques à Lyon ». Et on enchaîne tout de suite sans aucun jingle.
Eh oui, et en fait, on avait envie de vous rappeler, parce que c'est ça, on est hyper frustrés que les Canu Info ne durent que une heure, et du coup on avait envie de vous dire que en ce moment le mouvement social c'est aussi se coordonner, se passer des infos, se passer des témoignages, et que pour ça vous pouvez en envoyer sur le site rebellion.info qui essaie de faire un travail de coordination de la lutte. Vous pouvez bien sûr aussi nous appeler pendant les Canu Info, et on va vous rappeler le numéro maintenant.
Et le numéro du standard pour appeler pendant les Canu Info pour donner des informations en direct, mais pas seulement, vous pouvez appeler Canu en permanence dans notre magnifique local technique où je me situe à l'instant. C'est le 04 78 39 18 15, 04 78 39 18 15, et nos meilleurs standardistes vous répondront.
Et oui, puisque finalement, la lutte, c'est par celles et ceux qui la font. Des outils comme Rebellion.info ou Radio Canu essayent de relayer la lutte par vous, pour vous, grâce à nous, avec vous, tout ça. Voilà.
On vous aime, mais il y en a un qui ne vous aime pas, c'est le préfet. Quelle magnifique transition, puisque le préfet a décidé de maintenir, lui, l'esprit de Noël, puisque l'esprit de Noël, vous le savez, ça consiste à les consommer dans les magasins des zones commerciales, et donc a interdit strictement les manifestations entre 8h et 22h sur les trois principales zones commerciales que compte la ville de Lyon, puisque l'accès à la presqu'île sera interdit aux manifestations demain et dimanche, de la même manière que l'accès à la Part-Dieu, et enfin un lieu dont on se fout complètement qui est Confluence, mais on n'aura pas le droit d'y aller non plus. Voilà, c'est interdit. Une fois de plus, évidemment, le préfet protège les intérêts des commerçants et veut pas qu'on casse le train-train de Noël. Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Mais ça pue un cochon.
Violence policière. Canu Info.
La police suicide, la police assassine, qu'elle soit de droite ou socialiste, la police mutile.
Violence policière.
Et on commence cette rubrique en allant du côté de Lille, et pour se rappeler d'un drame qui a eu lieu il y a presque 2 ans, le 15 décembre 2017. C'est l'homme et Mathis, deux jeunes garçons âgés à l'époque de 20 et 18 ans, sont percutés par un train et ils décèdent suite à leurs blessures 2 jours plus tard. Du coup là on est 2 ans plus tard, les circonstances de ce drame et notamment le rôle de la police ne sont toujours pas élucidées. Leur mère, Valérie et Peggy, se battent depuis pour que vérité et justice soient faites sur la mort de Selom et Mathis. Mais comme vous imaginez très bien, quand la police a des choses à voir avec ces morts, et ben c'est très très difficile d'avoir justice, d'avoir des enquêtes qui soient menées au bout. Et du coup, on voulait vous parler un peu rapidement de ce qui s'est passé il y a 2 ans et de qu'est-ce qui se passe depuis. L'accident, ce que l'on sait, c'est que c'est l'homme et Mathis, avec deux autres amis, se trouvaient dans les quartiers populaires de Collier à Lille. Et pour des raisons jusqu'ici incertaines, ils se sont engagés sur les voies de chemin de fer, auxquelles il est pourtant difficile d'accéder, parce qu'ils ont dû prendre appui sur une grille et escalader un muret pour arriver jusqu'au rail. Il pleut ce soir de décembre et du coup les jeunes parcourent un bout des rails du train jusqu'à ce que un TER parti 3 minutes plus tôt de la gare de Lille les percute. En fait il faisait nuit, il y avait très peu d'éclairage, du coup le conducteur essaie de freiner mais c'est trop tard. Du coup, les familles n'ont pas beaucoup d'informations quand elles arrivent à l'hôpital. C'est encore le cas aujourd'hui. Il n'y a aucune version officielle de ce qui s'est passé ce soir-là. On ne sait pas pourquoi ces quatre jeunes ont voulu franchir la voie à cet endroit qui est particulièrement dangereux. Une première version a été donnée par l'un des quatre amis qui du coup a survécu à cet accident. Le lendemain de l'accident, du coup, le garçon venait se faire percuter par un train. Le lendemain, la police va l'interroger à l'hôpital. Et du coup, ce jeune dit qu'ils avaient escaladé le mur pour aller se rendre en soirée dans un autre quartier à Fives, du coup un quartier situé de l'autre côté des voies. Par contre, quelques jours plus tard, le quatrième ami, qui était un peu le moins blessé de tous, il paraît à la télé devant France 3 en fauteuil roulant et il remet en cause la version officielle. Et en fait, il explique qu'avec ses amis, ils étaient en train de fumer un joint lorsqu'ils se sont fait prendre en chasse par la police. Le procureur... dit rapidement que personne ne confirme l'existence d'un tel contrôle sous quelque forme que ce soit auprès de la police, du parquet ou de quelconque autorité. Du coup, le parquet le nie complètement cette version et dit que la police n'était pas sur place. Sauf que quelques jours plus tard, le parquet revient sur ses affirmations et confirme la présence d'une patrouille dans la cité Saint-Maurice, du coup à côté du lieu de l'accident. Donc le doute s'installe, on ne sait toujours pas grand-chose, mais les parents de Célom et Mathis prennent un avocat et décident de porter plainte pour homicide involontaire, mise en péril de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Et les deux mères se constituent partie civile. Sauf que, bien évidemment, il est pour elles très, très, très compliqué de porter plainte parce qu'au début, les flics lui disent « ça ne sert à rien que vous portiez plainte ». Du coup, ça c'est la mère, l'une des mères, qui, pour poser plainte, doit retourner avec son avocat et au lieu de prendre sa plainte contre toute attente, en fait, il se retrouve pendant 4 heures à répondre à une audition sur son fils. Et seulement à la fin, elle arrive à porter plainte. Et pour l'autre mère aussi, le commissariat central de Lille a simplement refusé de prendre sa plainte. Du coup, dans les jours qui suivent l'accident, une enquête judiciaire est quand même diligentée pour déterminer les causes de la mort de Célom et Mathis. Mais du coup, il reste des doutes, il reste des contradictions dans l'histoire. Il y a des éléments assez flous que la police a choisi de ne pas enquêter. Peggy et Valérie, les mamans de Célom et Mathis, luttent encore aujourd'hui pour que l'enquête continue, pour qu'il y ait des recherches qui soient faites et pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là et surtout qu'est-ce que faisait la police cette nuit-là.
Et on reste dans la rubrique des violences policières, mais on va vous parler plus particulièrement de surveillance. Donc à l'heure actuelle où il est d'autant plus important d'aller en manifestation, nous allons vous parler de reconnaissance faciale. Pourquoi ? Puisque depuis 6 ans, le gouvernement a adopté plusieurs décrets pour autoriser l'identification automatique et massive des manifestants. Cette autorisation s'est passée de tout débat démocratique et elle résulte de la combinaison insidieuse de 3 dispositifs, le fichier TAJ, le fichier TESS et la loi renseignement. Mais alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? On va vous expliquer et on commence par le TAJ.
Alors, le TAJ pour traitement des antécédents judiciaires, c'est quoi? Alors, juste pour vous donner deux chiffres, le TAJ, c'est 18,9 millions de personnes qui sont fichées, ça fait une personne sur trois à peu près, et entre 7 et 8 millions de photos de face. Alors, en théorie, le TAJ ne devait ficher que des personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants d'avoir participé à la commission d'une infraction comme auteur ou complice. Sauf qu'en pratique, il s'agit davantage d'un outil de communication interne aux forces de l'ordre qu'elles utilisent pour échanger un maximum d'informations pratiques, indépendamment de la véracité ou de la pertinence de celle-ci. Il n'y a pas de vérification de la qualité des informations. Lorsque la photographie du visage d'une personne y figure, elle peut avoir été prise dans un commissariat ou à la gendarmerie, mais les policiers et gendarmes peuvent tout aussi bien avoir simplement photographié un document d'identité, ils le font assez souvent quand ils vous contrôlent à l'entrée des manifs, ou encore dans un autre cadre, dans la rue, ou pourquoi pas, imagine la croisure du net, et bien tout simplement avoir collecté une photo sur internet. En gros, pour résumer, en France, une personne sur 10 pourrait avoir sa photo dans le fichier TAJ. La police et la gendarmerie peuvent l'analyser automatiquement afin de la rapprocher d'images prises sur des lieux d'infraction, notamment par des caméras de vidéosurveillance. Et ça, c'est ce qu'on appelle la comparaison faciale.
Et vient s'ajouter à ça donc le fameux fichier TESS qui est une extension de cette technique donc du TAJ. Et en fait, donc TESS c'est pour titre électronique sécurisé. Alors à l'origine, le TESS n'avait qu'un champ plutôt réduit puisqu'il était finalement étendu. C'est plutôt un champ plutôt large puisqu'il est finalement étendu à l'ensemble de la population pour en ficher tous les visages. Et comment on en est arrivé là? Et bien tout commence par les fameux passeports biométriques qui notamment comportent un support de stockage qui contient une photo faciale. En pratique, le passeport intègre une puce qui contient la fameuse photo. Elle est stockée nulle part ailleurs. Donc on se dit qu'à première vue, il n'y a pas de débouché sur la surveillance de masse. Mais en 2012, le gouvernement prévoit de fusionner donc le test passeport et les fichiers des cartes d'identité en un méga fichier unique. Et de plus, ce fichier unique contiendra désormais aussi les photos présentes, donc toutes les photos. Et c'est un truc qui a été temporairement abandonné, car contraire à la Constitution, mais cette loi a été remise au goût du jour en 2016. Et donc, ce fameux méga fichier TESS comporte désormais l'ensemble ou presque de la population.
Et alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, en fait, imaginons une manifestation dans une grande ville, Lyon par exemple. La police intervient pour disperser le cortège, ça arrive, elle fait deux sommations, puis elle photographie la foule, ce qui arrive de plus en plus régulièrement. Je ne sais pas si vous avez observé les policiers qui surveillent les manifestations actuellement, ils sont très souvent équipés soit de caméras, soit d'appareils photo ou de téléphones plus ou moins personnels. Les personnes dont le visage est visible sur le cliché n'étaient manifestement pas en train de se disperser alors qu'elles en avaient reçu l'ordre, et les flics peuvent alors considérer qu'il s'agit d'indices graves et concordants, selon les termes juridiques, selon lesquels ces personnes commettent un délit, à savoir continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations. Une fiche est alors ouverte dans le TAJ pour chacune d'elles. Leur nom est inconnu, mais on a leur photo. Cette photo est accompagnée de la date et du lieu de l'événement. Et ce qui se passe ensuite, c'est que la police est autorisée à ajouter autant de photos qu'elle veut de reconnaissance et à utiliser les outils de reconnaissance faciale que contient le TAJ. Le lien avec le fichier TES, celui qui va contenir votre nom et qui va donc lier la photographie et votre présence éventuelle à une manifestation, il est lui dans TES. Pour l'utiliser, TES, les policiers sont censés connaître votre nom. Ils ne peuvent pas accéder aléatoirement à ce qui s'y passe. Mais du coup, en fait, par leurs renseignements qu'ils peuvent avoir par ailleurs ou par les contrôles d'identité qu'ils ont fait en amont de la manifestation, ils vont rentrer un certain nombre de noms susceptibles d'avoir été à la manifestation, ce qui va leur donner les photos contenues dans le TES qui vont pouvoir être comparées grâce aux algorithmes de reconnaissance faciale à ceux du TAJ. En gros, ils sont capables de
remonter vos noms dans le fichier tâche. Et tout ça, évidemment, c'est là que ça devient amusant et itératif, puisque le processus se renforce au fur et à mesure des manifestations. Dès que les participants ont été fichés otages avec leur photographie, il devient toujours plus aisé de les relier, puisque cette fois, dans le tâche, on a désormais leur nom et leur photo. C'est pas merveilleux tout ça?
C'est très merveilleux. Et d'autant plus que le droit actuel permet déjà la généralisation de la reconnaissance faciale des manifestants et manifestantes, sans contre-pouvoir effectif, comme on disait au début. Et donc, difficile d'y voir clair sur les pratiques réelles des policiers et gendarmes. Peu importe que ce fichage soit ou non déjà généralisé en pratique, il est déjà autorisé, ne serait-ce qu'en théorie, et cela de différentes façons. Dans ces conditions, difficile d'imaginer que ces techniques ne soient pas déjà au moins expérimentées sur le terrain. Donc ça, on a tous bien vu les petits appareils photo et les petits drones un peu de partout. Difficile d'imaginer que parmi justement les dizaines de drones déployés dernièrement au-dessus des manifestations, aucun n'ait jamais participé à de telles expérimentations, si tentant pour les forces de l'ordre, est soumise à si peu de contrôle effectif. Donc, et autre chose aussi qu'il faut savoir et qui est d'autant plus important, c'est qu'il faut également savoir que le TAJ est consultable dans le cadre d'enquêtes administratives. L'administration peut vérifier qu'une personne n'y est pas fichée avant de l'embaucher dans de nombreuses fonctions publiques. Moi, j'ai juste un mot à dire, c'est qu'avec tout ça, je vous conseille...
Comment ? Il y a un tiers de la population qui a une fiche déjà créée dedans.
Voilà. Mais en tout cas, moi, pour conclure là-dessus, je dirais que là, ce qu'on retient, c'est qu'il faut surtout aller masquer en manif. Qu'en ce jour du 13-12, je vous encourage à aller en cortège accabler la BAC.
Et une autre arme de la répression policière, c'est une véritable arme de guerre, c'est la grenade lacrymogène explosive Gli F4. Ces grenades qui sont utilisées aujourd'hui par la police lors de la répression du mouvement sont extrêmement dangereuses. Pendant le mouvement des Gilets jaunes de l'année dernière, 5 personnes au moins ont eu une main arrachée et 28 autres personnes au moins ont été blessées sur d'autres parties du corps. Donc on va faire un petit focus sur l'une des armes de la répression de cette police qui mutile et qui assassine. La grenade lacrymogène explosive Gli F4 est donc la cousine de la grenade OF1 qui avait causé la mort de Rémi Fraisse en 2014 et qui a été depuis interdite. La Gli F4 est une petite bombe de 25 grammes de tolite, le TNT. Donc ça explose. D'apparence, elle ressemble à une grenade lacrymogène, mais elle est d'une toute autre dangerosité. Non seulement elle libère du gaz lacrymogène, mais sa charge explosive provoque une forte détonation, 165 décibels à une distance de 5 mètres, l'équivalent d'un avion au décollage, et un effet de souffle, c'est-à-dire une onde de choc. Selon le code de la sécurité intérieure, classé catégorie A2, relevant des matériels de guerre, des matériels de protection contre les gaz de combat. Les Gli F4 sont définis comme des munitions spécifiquement destinées à l'usage militaire et au maintien de l'ordre. C'est que les manifestants et manifestantes ignorent, c'est que le fabricant de cette grenade lui-même la juge aussi dangereuse et même défectueuse. Il s'agit de l'entreprise Acetex, qui est une filiale du groupe Étienne Lacroix. Elle a informé le ministère de l'Intérieur le 4 janvier 2018 par une note que ces grenades lacrymogènes instantanées Gli F4 présentaient des graves défauts, identifiés mais non résolus. Le fabricant met en garde contre cette grenade qui a déjà causé plusieurs accidents corporels graves et dont les parties contenant la charge explosive doivent subir un traitement qui est très artisanal et très controversé en interne du fait du risque de sécurité. Cependant, l'État n'en interdit pas l'utilisation, au contraire, parce que selon les données communiquées au Conseil d'État par le ministère de l'Intérieur en mai dernier, 1738 grenades Gli F4 auraient été employées dans le cadre de la crise, entre guillemets, des Gilets jaunes. Elles ont mutilé 5 personnes qui ont perdu une main et ont blessé 28 par leurs éclats sur différentes parties du corps. Selon la Direction Générale de la Police Nationale, la DGPN, l'institution policière, hors gendarmerie, disposerait encore de 10 000 grenades Gli F4 en stock et de 583 grenades Gli F4 qui ont été utilisées entre janvier 2018 et ce jour. Ces Glief 4, du coup, elles sont plus produites parce que le fabricant, il trouve qu'elles sont un peu défectueuses quand même. Pas d'inquiétude. Il y a une nouvelle grenade qui est en train d'être finalisée. Ça sera la GM2L, dont le déploiement progressif a été lancé depuis 2018. Les Glief 4 sont pourtant encore utilisées. On disait, elles ont été autorisées depuis 2011. Elles avaient du coup vocation à remplacer celle de type F1, qui est également chargée en explosifs, et c'est les fameuses grenades qui ont été interdites après la mort de Rémi Fraisse. Mais très rapidement, la grenade Glief 4 se révèle tout aussi mortelle. Le 24 juin 2014, elle provoque le décès d'une salariée à Précigné, dans la Sarthe, dans un des ateliers de fabrication de la société Acetex. Événement qui va décider l'entreprise à en interrompre la production. Donc ça, c'est en 2014. Dans un rapport du 23 novembre 2014, l'inspection générale de la police nationale rappelle que la France est la seule nation d'Europe à utiliser des munitions explosives en opération de maintien de l'ordre. Je regarde le temps, juste pour avoir une idée. Voilà, je vais bientôt terminer. Juste pour dire que les risques de cette grenade, du coup, bien évidemment, c'est des risques suite à la déflagration. Du coup, ces grenades sont susceptibles de mutiler et de blesser mortellement un individu. Et ça, c'est reconnu par l'IGPN. Sans problème, mais les risques ne se limitent pas que aux conséquences létales de la charge explosive, ils proviennent également de ces multiples défectuosités, parmi lesquelles, du coup, celles qui sont reconnues par le fabricant même, c'est l'obsolescence, des défauts liés au vieillissement, des anomalies constatées sur le système de détonation de la grenade. De plus, l'usage de cette grenade hors protocole légal prévu est aussi très dangereux, bien évidemment. En fait, les grenades sont censées exploser en l'air. Or, c'est en la ramassant, avant qu'elle explose, que certains manifestants et manifestantes ont eu leurs mains arrachées. Et ça, c'est souvent parce que les policiers, au lieu de les jeter vers le haut, les jettent à bout portant ou vers le sol. Elle devrait également être utilisée uniquement après deux sommations. Or, vous aurez sans doute remarqué en manifestation que ce n'est pas toujours le cas. Du coup, voilà, bien que parfaitement informé de ces dysfonctionnements, le ministère de l'Intérieur continue pourtant d'écouler les stocks de Glief 4, notamment pour des raisons économiques. Une source proche de la gendarmerie nationale estime qu'une grenade sur trois est défectueuse, mais qu'on ne peut pas le savoir qu'en la tirant. En stock, il en reste de quoi tenir jusqu'à l'été 2020, soit plusieurs milliers de grenades. Du coup, il y a 6 avocats qui ont demandé l'interdiction de cette grenade devant le Conseil d'État, en mettant en avant tous ces éléments. Et surprise, le Conseil d'État a rejeté leur requête en juillet dernier.
Et tout ça pour vous dire que la répression et la violence policière, c'est aussi maintenant dans ce mouvement social et ça se multiplie. Dès jeudi 5 décembre, il y a un manifestant qui a eu 5 fractures au visage suite à une bombe de gaz lacrymogène. On a retrouvé la même chose le vendredi 6 décembre, un lycéen qui a eu la mâchoire fracturée. Le mardi 10 décembre, des impacts de tir de LBD ont beaucoup endommagé la jambe d'un autre manifestant. Il y a eu aussi l'histoire d'une autre personne qui a perdu 7 dents suite à un tabassage en règle, juste parce qu'il passait un peu trop près des flics le mardi 10 décembre. Tout ça s'accompagne évidemment de plusieurs interpellations et de comparaisons immédiates. On rappelle, violence et répression policière sont toujours le quotidien des mouvements sociaux et pour ça, on s'organise. On appelle la caisse de solidarité quand il y a des interpellations. Heureusement, il y a les street medics qui permettent de soigner, de prendre en charge en urgence des personnes qui peuvent être blessées. Big up à eux aussi, bien sûr.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Alors, on n'en a pas encore parlé, mais évidemment, l'événement d'aujourd'hui, c'est aussi la sortie du célèbre calendrier Blast Screen qui permet de financer la Lutine. La Lutine, c'est cette association qui est ouverte rue Montesquieu autour du 90, je crois, le 91, qui accueille de la musique, des collectifs militants et surtout qui sort un super calendrier sérigraphié. Il est sorti depuis 18h. Il paraît qu'il y en a 200 qui ont été imprimés. J'espère qu'il y en aura encore dans une heure. Sinon, on vous rappelle rappelle que demain, malgré les arrêtés préfectoraux, une manifestation est organisée pour enraciner la grève. Le rendez-vous est donné au départ de la gare des Brotteaux à 14h. Dès 12h, un piquet de grève et un barbecue végétarien de lutte est organisé à l'hôpital Édouard-Herriot pour continuer la lutte. Demain aussi, journée de lancement de la Caisse de solidarité Transinter. La Caisse de solidarité Transinter, c'est un collectif qui soutient financièrement les actes médicaux nécessaires aux personnes trans et inter précaires de Lyon. Je pense que vous pouvez réécouter le canular info de la semaine dernière. Le lancement du collectif a lieu demain à l'atelier des canulars, 91 rue Montesquieu, à côté de la Lutine, de 14h à minuit et demi, on nous dit. Toujours du côté de la Guillotière, dimanche, à partir de 11h, c'est l'inauguration de l'espace communal de la Guillotière. C'est un nouvel espace dédié à la vie du quartier qui ouvre ses portes. Ce lieu héberge dans sa partie habitable des exilés et propose au rez-de-chaussée des activités à destination des habitants du quartier. Vous pouvez vous y rendre dès 11h pour découvrir les activités proposées, pour y en proposer vous-même, pour découvrir cet nouvel espace autogéré. Le dimanche, en même temps, il y aura un concert de soutien au peuple chilien à partir de 15h au CCO à Villeurbanne. Et après, on arrive à lundi. Lundi, on vous propose un atelier d'observation gynécologique pour les personnes qui ont un vagin, bien sûr, j'imagine. C'est proposé par le collectif qui s'appelle Le Grog. Le rendez-vous est donné à côté de la place Belleville, Lyon 8e, à partir de 19h. Vous retrouverez toutes les informations sur Rebellion. Le soir, vous pouvez aussi vous rendre à des ateliers à la Bourse du Travail à partir de 19h pour combattre pour nos retraites, ateliers action et échange pour vous renseigner. Enfin, bien sûr, la manifestation mardi prochain, 17 décembre, à la manufacture des tabacs à 11h30.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Acab?
Radio Canu.
Salut Mathieu.
Canu, en soi du vendredi.
Cher Mathieu, aujourd'hui, Acab veut dire plein de choses. Mais entre autres, il veut dire aujourd'hui, crie Acab bien fort.
Ça veut dire aussi amicale coopérative anti-bac.
Et puis parce qu'une ministre en marche, dont on ne citera pas le nom parce qu'on parle beaucoup trop d'elle, qui s'appelle Agnès Seri-Machin, a encore abusé, attention buse, ou abuse sur les bus, en disant que c'est parce que les chauffeurs de bus et les agents de la RATP seraient musulmans qui feraient grève jusqu'à Noël et nous priveraient de ce bonheur familial.
Amis et camarades, amplifions les barricades.
Et tout de suite, c'est pas Noël, mais c'est Noise Pollution. À bientôt.
On a été le premier groupe à être banni d'Angleterre. Leur musique était jugée offensante par les associations parentes.
Les paroles de certaines chansons peuvent-elles être à l'origine de troubles?